Ben-Hur, chapitre 17. Ben-Hur et Messala se revoient. Pendant que Ben-Hur descendait les marchés de l'estrade, un arabe vint se placer sur la dernière et cria à pleine voix « Écoutez, hommes de l'Orient et de l'Occident, le bon cheikh Hilderim vous salue. Il est venu tenter la fortune avec 4 chevaux, fils des coursiers favoris du roi Salomon. Et il a besoin, pour les mener à la victoire, d'un homme puissant. Il promet d'enrichir pour la vie celui qui les conduira à sa pleine satisfaction. Répétez cette offre ici et là, dans le cirque, partout où s'assemblent les hommes forts. Ainsi a dit mon maître, le cheikh Hilderim le généreux. » Cette proclamation produisit une grande sensation parmi les spectateurs massés sur l'estrade. On pouvait être certain qu'avant la nuit, elle serait connue et discutée dans tous les cercles d'Antioche. Ben-Hur, depuis qu'il l'avait entendu, regardait le cheikh d'un air hésitant. Malouk s'attendait à le voir accepter son offre, mais au grand soulagement de l'honnête israélite, il se tourna tout à coup vers lui en lui disant « Où irons-nous maintenant, bon Malouk ?»« Si tu désires, répondit-il en riant, ressembler à tous ceux qui visitent Daphné pour la première fois, tu iras tout droit te faire dire la bonne aventure. »« La bonne aventure, dis-tu, bien que cette suggestion ait une saveur d'incrédulité, allons consulter la déesse. » « Non, fils Darius, les prêtres d'Apollon usent d'un artifice plus ingénieux. Au lieu de te faire entendre les paroles d'une pythonisse ou d'une sibylle, ils te vendront une simple feuille de papyrus, à peine sèche, en te recommandant de la plonger dans l'eau d'une certaine fontaine. Quand tu l'en retireras, tu y trouveras inscrits quelques vers qui te feront connaître l'avenir. Mais il y a des gens qui n'ont que faire de se tourmenter au sujet de leur avenir, dit-il avec amertume. « Comment appelles-tu cette fontaine ?»« La Castalia. »« Oh, elle est réputée dans le monde entier. Allons-y donc. » Malouk, qui observait son compagnon tout en marchant, s'aperçut vite que sa bonne humeur l'avait abandonné. Il ne prêtait aucune attention aux personnes qu'il rencontrait et les merveilles près desquelles il passait ne lui arrachaient pas la moindre exclamation. Il allait droit devant lui, l'air sombre et préoccupé. La vue de Messala avait éveillé en lui un monde de souvenirs. Il lui semblait qu'il n'y avait qu'une heure qu'on l'avait arraché à sa mère, que les Romains avaient fait murer les portes de la maison de son père. Il se rappelait que, dans cette lente agonie qui avait été sa vie aux galères, une seule chose le soutenait, ses rêves de vengeance, dans lesquels Messala occupait la première place. Il se disait souvent alors que Gratien pourrait obtenir de lui quelques merci, mais Messala jamais. Et pour donner plus de force à sa résolution, pour la rendre plus inexorable, il se répétait invariablement « Qui donc nous a désignés à la vindicte de nos persécuteurs ? Et quand j'implorais son secours, non pas pour moi-même assurément, qui donc s'est moqué de moi ?» Et toujours ses rêves finissaient par la même prière « Le jour où je le rencontrerai, « Aide-moi, ô Dieu de mes pères, aide-moi à découvrir le moyen le plus certain d'effectuer ma vengeance. » Et maintenant, cette rencontre allait avoir lieu. S'il avait trouvé Messala pauvre et souffrant, les sentiments de Ben-Hur auraient peut-être été différents, mais il n'en était pas ainsi. Ben-Hur songeait à cette rencontre et se demandait comment il s'y prendrait pour la rendre à jamais mémorable. Ils arrivèrent bientôt à une large allée bordée de chênes où allaient et venaient des piétons, des cavaliers, des femmes portées en litière, et bientôt ils aperçurent devant eux la fameuse fontaine de Castalia. L'eau tombait en bouillonnant du haut d'un rocher dans une vasque en marbre noir, à côté de laquelle se tenait assis, sous un portique taillé dans le roc, un vieux prêtre barbu, ridé, parcheminé. Il aurait été difficile de dire ce qui exerçait sur les assistants la plus puissante attraction, de l'eau qui fumait et bouillonnait éternellement, ou de l'ermite éternellement assis à la même place. Il entendait, il voyait, mais il ne parlait jamais. De temps en temps, quelqu'un lui tendait une pièce de monnaie. Il la prenait en clignant ses yeux rusés et rendait en échange une feuille de papyrus. Celui qui l'avait reçue se hâtait de la plonger dans le bassin, puis l'exposer tout humide aux rayons du soleil. Aussitôt, quelques vers, dont la banalité parfaite ne faisait que rarement tort à la renommée de la fontaine, apparaissaient sur la feuille. Avant que Ben-Hur eût le temps d'interroger l'oracle, sa curiosité fut éveillée par l'approche d'une petite caravane. En tête marchait un homme à cheval, conduisant un grand chameau blanc, qui portait sur son dos un vaste palanquin or et cramoisi. Deux cavaliers, armés de longues lances, fermaient la marche. « Quel merveilleux chameau ! » s'écria quelqu'un. « C'est un prince qui arrive d'un pays lointain, » dit un autre personnage. « Bien plutôt un roi. S'il montait un éléphant, je dirais certainement que c'est un roi. » « Par Apollon, mes amis, » dit un troisième, « les deux personnes assises sur ce chameau blanc ne sont ni des rois ni des princes, mais tout simplement des femmes. » Avant que la discussion fût terminée, les étrangers s'étaient arrêtés devant la fontaine. Le chameau, vu de près, ne démentait point l'admiration qui l'excitait. Aucun de ceux qui le regardaient ne se souvenait d'avoir jamais vu son pareil. Il faisait tinter joyeusement les clochettes d'argent suspendues à son cou par des cordons de soie rouge, orné de floques d'or, et ne paraissait pas s'apercevoir du poids de sa charge. Qui donc était l'homme et la femme assis sous le palanquin? Tous les yeux tournés vers eux exprimaient la même question. Si le premier était un roi ou un prince, personne n'aurait pu nier l'impartialité du temps. Chacun, en voyant le visage de momie disparaissant à demi sous un immense turban, devait se dire avec une vive satisfaction que la limite d'âge est la même pour les grands que pour les petits de ce monde. Rien dans toute sa personne ne paraissait digne d'envie, si ce n'est le châle drapé autour de ses épaules. La femme qui l'accompagnait était assise à l'orientale, au milieu de voiles et de dentelles d'une finesse incomparable. Elle portait au-dessus des coudes des bracelets en forme de serpent, rattachés par des chaînes d'or à ceux qui ornaient ses poignets. Ses bras, d'un modelé parfait, ses mains petites comme celles d'un enfant, avaient des mouvements d'une grâce charmante. Ses doigts, chargés de bagues, s'appuyaient au bord du palanquin. Elle était coiffée d'une calotte brodée de perles de corail et bordée de rangées de pièces d'or retombant sur son front. D'autres se mélangeaient aux tresses de ses cheveux, d'un noir bleuté. Elle regardait autour d'elle avec indifférence. Contre les règles admises parmi les femmes de qualité, elle tournait vers la foule un visage découvert. Vraiment, il valait la peine d'être vu, ce visage resplendissant de jeunesse et d'une forme exquise. Son teint n'était pas blanc comme celui d'une grecque, ni brun comme celui d'une romaine. Il n'avait pas davantage la fraîcheur d'une gauloise, mais sa peau fine, laissant transparaître son sang vermeil, devait avoir emprunté sa nuance chaude et dorée au soleil des bords du Nil. Ses cils, noircis suivant un usage immémorial en Orient, agrandissaient encore ses yeux naturellement grands. Ses lèvres roses, entr'ouvertes, laissaient voir une rangée de dents d'une blancheur éclatante. Quand elle eut suffisamment inspecté les alentours, cette royale beauté dit quelques mots au conducteur, un Éthiopien corpulent, qui fit agenouiller le chameau à côté de la fontaine, après quoi elle lui tendit une coupe qu'il se disposait à remplir d'eau, quand un bruit de roues et de sabots de chevaux fit pousser un grand cri aux admirateurs de la jeune fille qui se dispersèrent de tous côtés. « Je crois que le Romain s'est mis en tête de nous écraser tous !» s'écria Malouk en donnant à Ben-Hur l'exemple de la fuite. Ce dernier tourna les yeux dans la direction d'où venait le bruit et aperçut Messala, qui, debout dans son char, s'avançait de toute la vitesse de ses chevaux vers la fontaine. Chacun se sauvait, seul le chameau ruminait, les yeux fermés, avec l'expression de béatitude propre aux animaux habitués à être traités en favoris. Il aurait fallu d'ailleurs qu'il fût doué d'une agilité inconnue à ses congénères pour échapper aux sabots qui allaient se poser sur lui. L'Éthiopien, effrayé, agitait ses mains. Le vieillard, assis dans le palanquin, essayait d'en sortir, mais l'âge et le souci de sa dignité faisaient trop partie de sa nature pour qu'il pût oublier un instant son calme majestueux. Quant à la jeune femme, il n'était plus temps pour elle de songer à se sauver. Ben-Hur, placé tout près d'eux, criant en s'adressant à Messala, « Arrête ! Regarde donc où tu vas ! Arrête, te dis-je » Le patricien riait d'un air de bonne humeur, et Ben-Hur, voyant qu'il n'y avait pas pour les étrangers d'autre chance de salut, s'élança à la tête des chevaux et s'y suspendit de toutes ses forces. « Chien de Romain ! Criait-il. « Fais-tu si peu cas de la vie des autres ?» Les chevaux firent un brusque saut de côté et le char pencha si bien que Messala dut à sa seule adresse de n'être pas jeté sur le sol. Quand ils virent le péril conjuré, tous ceux qui venaient d'assister à cette scène se livrèrent à des éclats de rire bruyants et ironiques. Le Romain fit preuve en cette occasion d'une audace sans égale. Il jeta les rênes à son domestique et s'avança vers le chameau en regardant Bannure, mais en s'adressant au vieillard et à sa compagne. « Pardonnez-moi, je vous le demande à tous les deux, » dit-il. « Je suis Messala, et je vous jure que je ne voyais ni vous ni votre chameau. Quant à toutes ces bonnes gens, il se pourrait que je me fasse trop à mon habileté. Je me promettais de rire à leurs dépens. C'est à eux de rire au mien. Je leur permets de grand cœur. » Son regard insouciant et bon enfant s'accordait parfaitement avec ses paroles. Chacun se tut pour l'écouter, et certain d'avance de gagner sa cause auprès de ceux dont il avait encouru le déplaisir, il fit signe à son compagnon de conduire son attelage un peu à l'écart et s'adressa hardiment à la jeune femme. « Tu t'intéresses à ce vieillard dont je solliciterai tout à l'heure humblement le pardon, si je ne l'ai point déjà obtenu. Tu es sa fille, je suppose. » Elle ne lui répondit pas. « Par Minerve, sais-tu que tu es belle ? Je me demande quel pays peut se vanter de te compter parmi ses enfants. Ne te détourne pas de moi, je te prie, afin que je puisse essayer de déchiffrer cette énigme. Le soleil des Indes brille dans tes yeux, mais l'Égypte a porté son sceau sur les coins de ta bouche. Sois miséricordieuse envers ton esclave, maîtresse, et dis-moi que toi, du moins, tu m'as pardonné. » Elle l'interrompit en se tournant vers Bannure, auquel elle dit avec un gracieux signe de tête « Veux-tu prendre cette coupe et la remplir ? Mon père a soif. »« Je suis prêt à te servir, » répondit Bannure. Comme il s'apprêtait à lui obéir, il se trouva en face de Messala. Le regard du juif était plein de défis. Celui du romain exprimait la gaieté. « Ô étrangère aussi cruelle que belle, » reprit Messala, « si Apollon ne t'a pas enlevé d'ici là, je te reverrai. Comme j'ignore ta patrie, je ne puis te recommander à ses dieux. J'en suis donc réduit à te recommander au mien. » Il fit de la main un signe d'adieu et rejoignit son équipage. La jeune fille le suivit avec des yeux où se lisait quelque chose qui n'était pas du déplaisir. Puis elle se pencha pour prendre l'eau qu'elle avait demandée. Quand son père se fut désaltéré, elle-même trempa ses lèvres dans la coupe qu'elle tendit ensuite à Bannure avec un geste gracieux. « Garde-la, nous t'en prions, » lui dit-elle. « Je voudrais qu'elle fût pour toi pleine de bénédictions. » Au moment où le chameau se remettait en route, le vieillard appela Bannure qui s'approcha respectueusement. « Tu as rendu aujourd'hui un grand service à un étranger, » lui dit-il. « Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est en son nom que je te remercie. Je suis Balthazar, l'Égyptien. » Le cheikh Hilderi m'adressait ses tentes là-bas, dans le grand jardin de palmiers au-delà de Daphné, et nous sommes ses hôtes. Viens nous voir chez lui, tu y recevras un accueil dicté par la reconnaissance. » La voix et les manières solennelles du vieillard avaient produit une profonde impression sur Bannure. Tandis qu'il le regardait s'éloigner avec sa fille, il aperçut Messala qui s'en allait comme il était venu, joyeux, indifférent, riant d'un rire moqueur.